Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Salut à tous, auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce 30e numéro de C'est la faute à la
manette.
Ouais, putain, ça marche maintenant, incroyable, au bout de 30 émissions, je suis vachement content. Au programme ce soir, on va parler d'une exception culturelle française qui ne contient ni Cadmerade ni Omar Sy. Je parle bien sûr d'un héros pionnier du jeu vidéo, on va parler de Rayman ce soir, ça va être bien.
Ouais,
trop bien. De sa naissance au milieu des années 90 jusqu'à sa déchéance, ses dérivés, son retour gagnant, on repassera en vue une série finalement assez volatile, mais ô combien sympathique. On vous donnera également les news qui nous ont marqués en ce début d'année, et on accueille aussi deux invités qui nous parleront de leur association Born in the 80s et qui nous accompagneront pendant l'émission. Et ensuite, on aura droit à un quiz, on vous les présentera juste après. Avant ça, on a nos chroniqueurs habituels. On a un barbu chroniqueur par intermittence qui n'est pas là à chaque fois qu'il crée un sujet. C'est Tom. Salut Tom.
Salut à tous, salut Julien. Je n'arrive pas à vivre dans un monde où The Last Guardian est sorti, je suis vraiment désolé.
D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es mort la dernière fois, c'est ça?
Alors non, vraiment, grosse déprime. De quel jeu vais-je me moquer alors qu'il ne sort pas et que moi j'aime Star Citizen?
D'accord.
Voilà, cette question m'a tenu éveillé toute la nuit, donc grosse insomnie, je n'ai pas pu venir.
Je vois le genre. On a également un rouradin qui va jouer au meilleur jeu de la Terre car je viens de lui ramener en direct. Donc
non, faut... c'est vrai.
Exactement.
Je pensais que tu n'y avais pas pensé.
Exactement, vas-y, continue à faire la surprise
ouais.
Pendant que.
Ah mon wow, dieu,
tu es trop
qu'est-ce
content.
Que...
Wow, tu n'as pas lu le lien du temps et tu vas pouvoir jouer à Resident Evil 4. Félicitations.
Ah, je pensais que c'était Monsieur Nut, mais bon. Bon bah oui, merci Julien.
De rien,
pour,
de
ça.
Rien.
Je vais pouvoir le faire enfin.
Ouais,
je ne l'ai jamais fait.
Depuis le temps, quelle honte.
Merci beaucoup.
On a également un gros nounours à la vodka, fan de Zelda et de communisme, c'est Ferdi. Salut Ferdi.
Bonjour à tous.
Comment
tant
ça va?
Tant de privé que Joe dans une seule phrase.
C'est dingue hein.
Ah, était... tant de nouvelles années.
On a également deux invités qui passaient là peut-être un petit peu par hasard. Bonjour messieurs, qui êtes-vous? Alors qui commence?
Bon bah alors moi alors, je commence,
toi.
Bonjour.
Alors qui es-tu, comment t'appelles-tu?
Alors Michael,
très bien.
Président d'une association qui s'appelle Born in the 80s.
Ok.
Qui parle un peu de jeux vidéo et culture vidéoludique au sens large du terme.
D'accord. Tu as quel âge, Michael?
Alors, je viens d'avoir 38 la semaine dernière.
D'accord.
On vieillit, quoi.
Il faut bien parler dans le micro.
Ah, excuse-moi.
Voilà. Pas de soucis. Voilà.
Est-ce que ton papa est dans la salle, Michael?
Non, il n'est pas là.
D'accord. On a également avec nous Teddy, hein, je crois que j'ai retenu le nom.
Oui, c'est ça, Teddy. Et du coup, bah, moi, je fais tout le reste dans la sauce, c'est-à-dire ramasser les miettes, je me fais taper par le président.
D'accord.
Ces choses-là, quoi.
Ah, on dirait moi.
Ouais, c'est un peu le Guillaume de Born in the 80s, effectivement. Alors, avant de développer un petit peu ça, je vais vous demander une petite question. Quel est votre jeu préféré de tous les temps? Teddy, on va commencer par toi.
Allez, je vais dire King, Sensible World of Soccer 96.
D'accord, c'est très étrange, oui.
Ouais, moi aussi. Bah, parce que j'ai jamais vu un jeu avec une telle base de données, c'était juste incroyable.
D'accord.
À l'époque, quoi. Puis même encore maintenant.
Ok, Michael, du coup.
Alors moi, c'est The Last of Us. Pas pour le côté zombie et tout que je n'apprécie pas spécialement, mais vraiment pour l'histoire, les rencontres entre les personnages, tout ça quoi.
Un homme de goût, effectivement, je crois que Tom valide.
Alors moi, je n'ai pas fait The Last of Us, mais j'aime beaucoup les jeux Naughty Dog en général. Moi, ça va être plus les Jack and Daxter que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais ouais, The Last of Us, j'en entends tellement du bien que je pense que j'ai même pas besoin de faire
mais
pour
moi,
l'apprécier.
Je
l'ai fait, hein. Ok, bah on parlera du coup de l'association juste après, on passe aux news et on va lancer le petit jingle.
Hop.
Tous les jingles sont en 8 bits ce soir, hein. je tiens à le préciser, je ne sais pas comment on l'entend.
Ce n'est pas de notre ressort, je tiens à le dire.
C'est pour vous ramener à vos Walkman Sony.
Alors les news, cette semaine on va faire des news un petit peu réduites, on va chacun choisir la news qui nous a marqué cette semaine et on va commencer par toi Ferdi.
Alors moi c'est un compte Twitter qui a leaké, donc, qui a donné toutes les informations sur le prochain Marvel vs Capcom. Infinite, donc tout le roster. Alors c'est très crédible.
Alors qu'est-ce qu'un roster, hein, bro,
c'est...
précise. Hein.
Alors c'est la liste de caractères, de personnages jouables dans le jeu de combat, voilà. 2v2. Okay. Et donc il a sorti tous les personnages. Donc c'est la folie. On a des noms et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est crédible parce que c'est quelqu'un qui a donné les infos sur Resident Evil 7, sur beaucoup de jeux de Capcom. Donc c'est vraiment quelqu'un de là-bas. Et dans ces personnages-là, il y a un certain Dante. Ouais, trop bien.
Ouais.
Et c'est marqué entre parenthèses Luke DMD 5. DMC 5. Donc, Devil May Cry 5. Pas l'origine, le 5. Donc,
d'accord.
La future.
Voilà,
donc, il revient.
Un leak d'un nouveau Devil May Cry encore. Voilà.
Okay.
Donc,
plein de choses dans un leak.
C'est le reboot. Donc, ouais. La suite du reboot ou ça sera
c'est la suite du 4. C'est vraiment. On reprend Dante, on reprend le. Voilà,
on reprend Nero.
Voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a Dante et c'est vraiment une suite. Quoi. C'est pas. C'est, on recommence. Quoi.
Ok, alors. Voilà. Je vais faire ma news directement après parce qu'on a parlé d'hier de l'annulation de Scalebound. Qui était une exclue Xbox One, sûrement une des dernières, hein, malheureusement, en plus, et PC. Pourquoi j'en parle juste après toi? Parce que le héros ressemblait quand même vachement à Dante.
C'était, oui.
C'était fait par l'excellente Team Platinum Games, qui avait fait notamment Bayonetta, hein, c'est pas non plus des débutants dans le sujet. Ouais. Les raisons invoquées, c'est que le développement était trop long, que c'était un peu chaotique. Catholique, j'allais dire. C'est pas mal aussi.
Ça a gêné beaucoup de personnes.
Ça a gêné beaucoup d'enfants. Bref. Voilà, du coup le développement s'est arrêté et puis voilà, c'est dommage. Honnêtement, j'avais envie d'y jouer, il devait sortir cette année. Mmh. Et c'est voilà, c'est
bien. On sait pas trop ce que va nous vendre du coup Microsoft cette année parce que le catalogue
Crackdown 3,
Sea of Thieves et Halo Wars, il y a pas grand-chose, hein.
Non, mais il y a rien, il y a effectivement rien du tout.
Et il y a d'autres rumeurs comme quoi Platinum en fait sont trop en développement avec Nintendo pour s'embêter à avoir des
peut-être. Voilà.
GM du coup.
On parlait de Nintendo, juste pour rappeler que vendredi à 5h du matin heure française, il y aura la conférence de la Nintendo Switch.
Alors, donc la prochaine on pourrait y être, Nintendo. On pourrait être en direct sur Radio Campus, mais je pense qu'on va dormir.
Non, ouais, on dormira ou alors on regardera de chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à attendre? Son prix, quand est-ce qu'elle sort? Donc, on sait qu'elle sort en mars. Le line-up, parce qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir. Mmh. On sait d'ores et déjà qu'il y aura
des jeux.
Wow. Il y aura d'ores et déjà un Mario avec les lapins crétins, donc ça annonce du bon déjà.
Alors moi j'ai un peu pleuré. Guillaume nous a montré justement un screenshot avec le nom du jeu et ce serait donc moi j'ai commencé par lire Super Mario RPG, enfin Mario RPG. Je me suis dit genre génial Mario RPG, genre la suite du jeu de Super NES qui était excellentissime. Et ensuite voilà les lapins crétins, donc bon. Voilà. J'ai eu vraiment un ascenseur émotionnel.
C'est fou, hein. Final Fantasy 11 online et tout, ouais, tu vois.
C'est même Final Fantasy online. Oh.
Et d'ailleurs, sur la photo leak, on a pu voir aussi, alors c'est pas encore sûr, mais un Assassin's Creed qui sortirait du coup sur Switch.
D'Egypte.
Assassin's Creed d'Egypte. Qui est en fait le nom de code, je pense, pour Empire, qui est censé être le prochain Assassin's Creed qui doit sortir en 2017.
Alors est-ce que ce sera un gros ou est-ce que ce sera un comme celui en Russie ou celui en Chine?
Je pense que ça serait le Empire, parce que Empire doit se passer en Égypte.
C'est pas un Assassin's Creed là,
c'est pas un Chronicle.
Non, c'est pas un Chronicle.
Non, ce sera une version downgrade des versions next-gen, quoi.
Bon, après, j'ai très très peur aussi de ces infos-là, vu qu'il y a aussi une superbe affiche de Pepsi Man 2 sur Nintendo Switch, qui est faite par les mêmes mecs avec la même qualité, donc je doute quand même.
Je pense que c'est des gros fakes, mais.
Il y aura peut-être des. Il y a du vrai, je pense qu'il y aura
jamais. On aura peut-être Pepsi Man 2, on sait.
Alors, ça par contre,
c'est quand même un super
honneur. C'est quand même un gameplay
One. De toute façon, si tu balances 30 conneries d'un coup, il y en a forcément une ou deux qui seront bonnes dans le tas, donc voilà. Zelda et Mario, déjà, tu peux pas te tromper.
Oui.
Tom.
Alors, moi, j'ai une petite annonce qui spécule un petit peu, mais pas trop, mais quand même un peu, mais pas trop. Il y aurait l'annonce d'une Super NES Mini. Donc, tout le monde se souvient normalement de la NES Mini, donc la Nintendo Mini.
Que personne n'a pu acheter,
Que personne n'a pu acheter, parce qu'il y avait quelque chose comme 20 000 exemplaires en France, voilà. Tous ceux qui ont réussi à avoir Ico, c'est le même nombre d'exemplaires. La NES Mini, c'était quoi ? C'était une toute petite NES qu'on pouvait brancher tout bêtement sur son sans câble d'alimentation sur sa télé. Ça marchait avec genre un câble et ça marchait très bien. On pouvait jouer à tous les classiques de la NES refait. Alors bon, certes en version américaine et en 60 Hz, donc c'était pas exactement pareil pour nous les Européens, mais c'était quand même une très bonne machine avec une trentaine de jeux dedans et qui coûtait pas trop cher. Et là, on aurait, on a un dépôt de marque qui a été fait pour la Super NES Mini. Donc voilà, plein de bonnes choses. Alors après, la grande question, c'est quel jeu est-ce qu'ils vont choisir, parce que déjà sur la NES c'était très dur de choisir que 30 jeux NES.
Chrono Tiger en VF.
Alors voilà, Monsieur 30 Nats. Jeux Super NES, je sais que voilà, rien que dans les RPG il y en a une trentaine.
C'est pas dur, Chrono Tiger en VF, moi j'en achète 5.
Voilà, c'est 5, 6, 7. Voilà,
alors
c'est...
je précise pour la NES Mini qu'elle est hackable maintenant et qu'on peut rajouter une trentaine de jeux NES de ton choix. Voilà.
Et on peut monter à 60 jeux. Voilà.
Et
ce qui est drôle, c'est que ça a été trouvé parce qu'il y a une. Dans le fichier texte de la mini NES, il y a un petit message des développeurs qui font « Ne jouez pas avec notre console et avec notre matériel, d'accord ? Vous respectez Nintendo comme Nintendo vous respecte. » Bah, au bout du compte, paf, voilà.
Bah, on fait exactement comme Nintendo. Voilà.
Et donc maintenant, c'est un émulateur avec. Et donc, quand vous mettez les jeux craqués, vous avez vraiment les petites affiches. Le même visuel, en fait. C'est vraiment c'est un faux piratage, en fait. Hein, Nintendo, la faille, elle est trop facile. Donc,
voilà. Ok, alors, les invités, est-ce que vous avez une news qui vous a marqué cette semaine ? Vous deux, hein, ou chacun son tour, c'est comme vous voulez.
Là, du coup, il vient de me griller, c'était sur le piratage de la mini NES, donc j'ai l'air d'un con.
Mince. Et bon, on va dire que c'est toi qui as parlé hein, tout à l'heure.
Ouais, en fait, je te l'ai soufflé avant qu'on rentre. Et
exactement.
C'est pour ça.
Parce que moi, je me souviens Born in the 80s d'une Super Nintendo avec une LED verte.
Voilà. Bleu, pardon. Bleu.
Je spoil un peu, mais.
Et t'es dit, non ?
Bah, du coup, pareil. Hein, non, pas d'actu. désolé. En fait.
Et bah, du coup, on arrête avec les news et on passe directement avec le nouveau jingle de l'invité.
C'est parti. Et
vous attendez toujours ça avec impatience ?
Allez, c'est parti. Les vénards, les barbus, les bavards,
les gens dans les affaires, les infirmières. Ouais, le perdre encore. Les chômeurs, les patrons, les gens bien, les gens bons, les savants, les sondeurs, les gens sans opinion. Jingle de qualité, comme d'habitude.
Ah, Julien, tu nous impressionnes à chaque émission.
Je trouve que la qualité du son reflète bien le côté 80s, tu vois, du coup. Donc c'est super en raccord, en fait.
C'est vrai qu'on trouve ça un petit peu par hasard. Donc on accueille cette fois l'association Born in the 80s. Donc on a Michael et on a Teddy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association ? Quand est-ce qu'elle a été créée ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association ?
Ouais. Alors, l'association, elle a été créée il y a à peu près 3 ans. Et l'idée de l'association, c'est de montrer le jeu vidéo, pas forcément que à des joueurs, mais plutôt au grand public, et casser un peu les clichés qu'on... Certaines personnes peuvent avoir du jeu vidéo. Par exemple, mon gamin, il joue à Minecraft et il est addict à Minecraft, ou il joue à Call of Duty, donc il va sortir dans la rue et tuer des gens. Donc c'est un peu de présenter les autres aspects du jeu vidéo. Donc pour ça, on fait du rétro gaming, on présente aussi du jeu indépendant et aussi des jeux familiaux. Et pour faire connaître ça, on fait des petites expos, donc en médiathèque par exemple, comme celle qu'on va parler tout à l'heure. Où on présente à la fois donc ces différents types de jeux. On fait des conférences, on parle aussi de jeux vidéo, mais encore une fois, pas pour des joueurs, plutôt pour le grand public. Donc typiquement, notre présentation, conférence, ça fait un peu luxueux, notre présentation, elle s'appelle à la redécouverte du jeu vidéo, et l'idée, c'est de toucher un peu la mère de famille qui comprend rien au jeu vidéo, et dire, bah voilà, le jeu vidéo, ça existe depuis telle époque, ça a évolué, c'est une culture. Il y a aussi différents types de jeux vidéo, il n'y a pas forcément d'addiction, il y a aussi des avantages à jouer au jeu vidéo, etc., etc. Donc on fait une conférence comme ça, on fait des ateliers pour apprendre à des gamins à programmer des petits jeux vidéo. Alors l'idée, c'est pas qu'ils deviennent développeurs pour autant, c'est plus qu'ils désacralisent un peu la programmation, dire bah voilà, si tu passes du temps aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de faire un petit jeu sympa, quoi. Donc voilà, ce genre de choses. Et Teddy, quelque chose à ajouter, ou j'ai bien présenté ?
Bah ouais, non, c'est bon.
Alors messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ?
Donc depuis combien de temps vous existez ?
Alors, depuis
3 ans.
3 ans, exactement. Non, exactement.
Moins 1 pour le quiz.
Non, depuis combien de temps vous existez ? Quelle est la deuxième petite question ? Attendez. Hein.
3
de suspense. À moins que tu voulais dire combien de temps ils existent en tant que personne.
Non.
Et là, ils
l'ont
dit aussi.
Qu'est-ce qui a poussé à la création?
C'est ce que je voulais demander.
Qu'est-ce qui a poussé? Expliquez-nous l'origine, la genèse.
Alors, en fait, clairement, moi, je suis pas un très gros joueur, mais ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est un peu, par exemple, le jeu indépendant. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés qui viennent du jeu indépendant. Et à l'époque, donc, je voulais faire une mini-expo, en fait, autour des jeux vidéo. Et quand tu arrives en tant que particulier, que tu veux voir une mairie, une médiathèque ou des interlocuteurs, ils te répondent même pas en fait. Donc c'est pour ça clairement que l'asso a ouverte quoi. Si j'avais pas besoin de statut, je pense qu'on aurait fait ça à la cool avec des copains, Teddy, d'autres personnes. Là en fait on a posé des statuts à la base vraiment pour ça, pour avoir une espèce de crédibilité quand on va voir des gens quoi.
Légitimité.
Légitimité. Hein.
Ok. Ok, ouais. Tom.
Alors oui, moi j'aurais une question aussi. Vous dites que vous faites des présentations de un petit peu de sensibilisation, on va dire, pour les parents. Est-ce que au final vous trouvez que c'est plus important pour les parents d'être informés de ce qu'est vraiment le jeu vidéo ou que c'est plus important pour les enfants?
En fait, c'est un peu des deux parce qu'en fait, moi tout à l'heure, Mike disait que la conférence était pas mal destiné aux parents, mais en fait elle est aussi destinée aussi même aux joueurs, puisque justement on retrace l'histoire du jeu vidéo et aussi on leur explique un peu quels sont les enjeux, et surtout on leur propose une approche un peu sérieuse tout en étant quand même décomplexée. Donc en fait ça peut parler tout à fait à un gamin de 7 ans qui va découvrir le jeu vidéo avec des jeux qui sortent grand public, tout comme une personne de notre génération qui va plutôt chercher des jeux, que ce soit de l'indépendant ou une autre vision du jeu vidéo quoi. Et aussi effectivement des personnes âgées, comme on a pu voir mamie de 77 ans qui avait découvert Wii Sport.
Et est-ce que du coup vous pouvez nous citer deux ou trois jeux justement que vous conseillez comme ça pour nos auditeurs, pour découvrir comme ça des gens qui, mettons, j'ai 40 ans, j'ai jamais joué aux jeux vidéo et je voudrais voir ce que ça donne, quel jeu il faut que je joue?
En indé, l'autre jour on a fait une journée à la médiathèque de la Riche, et typiquement on avait mis des jeux indés plutôt pour les gamins et plutôt pour les adultes. En adulte on avait mis par exemple Limbo, et il n'y a pas beaucoup de boutons dans Limbo, c'est plus de la réflexion, donc au final il n'y a pas la barrière du gameplay de la manette, j'ai besoin d'apprendre plein de boutons, donc ce genre de jeu marche bien. On met un petit jeu qui s'appelle Spy Caméléon. Je sais pas si vous voyez, c'est un espèce de jeu d'infiltration. C'est un caméléon, il doit aller s'infiltrer d'un endroit A à un endroit B. Et il doit jouer avec les couleurs, vu que c'est un caméléon. Par exemple, quand il est rouge et qu'il se met sur un tapis rouge, on le voit pas. Ça, pareil, il y a juste 4 boutons qui correspondent aux couleurs dans lesquelles il doit se camoufler.
D'accord.
Et c'est le genre de jeu qu'on met en avant pour des adultes qui connaissent pas forcément le jeu vidéo. Il y a pas tous les boutons à apprendre d'un Watch Dog ou d'un...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Il y a aussi un jeu, enfin moi que j'aime bien, c'est Keep Talking and Nobody Explodes.
Oui, question VR.
C'est vraiment un jeu qui mélange un peu justement, ouais, c'est ça le jeu vidéo. Et je pense que on a vu pas mal justement les mères avec leurs enfants et là justement il y a un petit rapport qui est intéressant là-dessus.
C'est très intelligent parce que ça se rapproche du jeu de société basique.
Exactement. Et là du coup ils ont même pas la barrière du jeu vidéo, parce qu'on leur dit vous en tant que parent vous prenez la version papier et vous aidez votre enfant qui est sur le...
On va expliquer un petit peu le jeu.
Le jeu,
c'est un jeu donc en réalité virtuelle. Je crois qu'on peut y jouer sans, mais c'est vraiment plus sympa avec la réalité virtuelle. En fait, un des joueurs va avoir donc le casque et va avoir une bombe en fait devant les yeux, et il va pouvoir interagir de façon basique avec. Et un autre joueur va avoir le mode d'emploi de cette bombe. Et donc le joueur qui a le casque va devoir décrire ce qu'il voit devant lui, et l'autre va devoir tourner les pages, genre mince, c'est à quelle page qu'il y a tel module avec les câbles qui se croisent, alors coupe le deuxième, etc. Et donc c'est vraiment très fun. Ça se joue assez vite en plus, ce qui est plutôt sympa. Et typiquement, c'est le genre de jeu qui est parfait pour des présentations de VR, etc.
Alors moi j'avais une question, est-ce que vous avez souvent des parents un petit peu paniqués qui se disent mon gamin joue aux jeux vidéo depuis longtemps, ça m'inquiète, et est-ce que en ressortant du coup de vos animations, de ce que vous faites, est-ce qu'ils sont un peu plus rassurés, est-ce que voilà?
Alors moi perso j'ai pas l'impression qu'ils soient si inquiets que ça. Alors en tous les cas les gens qui viennent sur nos ateliers, nos événements, pour le moment on n'a pas encore fait la présentation qui s'appelle la redécouverte du jeu vidéo. Et là quand on va la faire, typiquement je pense que là il y a des gens qui vont venir qui seront peut-être plus inquiets. Enfin on va toucher un public vraiment qui est peut-être inquiet par le jeu vidéo. Et là, on va peut-être avoir ces critiques-là. Sinon, en général, il n'y a pas spécialement de grosses critiques. Et surtout, vu qu'on leur présente des jeux non violents, des jeux avec des gameplays simples, on a plutôt des personnes qui ont 40-50 ans qui nous disent « Ah bah en fait, non mais c'est cool, je ne voyais pas ça comme ça, le jeu vidéo. » Et en plus, ils sont contents parce qu'ils jouent avec leurs enfants. Et donc, le gamin, lui aussi, est content de se dire « Ah bah en fait, je peux jouer avec mon père. » C'est juste qu'il faut trouver le bon jeu qui peut faire communiquer les deux, entre guillemets.
Et du coup, est-ce que ça vous arrive parfois de faire un peu de la prévention, notamment au niveau du système PEGI des jeux, et par exemple si un parent arrive et bon bah voilà j'ai acheté Call of Duty GTA et on va prendre des exemples à la con, The Evil Within pour mon gamin de 5 ans, est-ce que vous lui dites bravo monsieur, c'est une très bonne idée, ou est-ce que vous lui dites effectivement c'est peut-être pas son âge et il faudrait plus l'orienter vers d'autres formes de jeux vidéo?
Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est toute une partie justement de notre présentation où justement on fait l'accent justement sur la norme PEGI, où on explique que de toute façon c'est pas une norme qui se soustrait au choix des adultes. Tout que l'adulte est important. On rappelle aussi que bah, les vendeurs aussi sont là, et ils sont là aussi pour conseiller comme un disquaire ou un cinéma. Après oui, on a, bah, je sais qu'on a un visuel là-dessus qu'on met systématiquement sur voilà qu'est-ce que la norme PEGI. Après oui, enfin on essaye quand même, enfin c'est un peu notre but quand même de faire de la pédagogie, donc
on sait très bien comment ça se passe hein, dans les supermarchés, personne surveille, enfin tout le monde s'en fout dans les supermarchés, tu peux acheter n'importe quoi.
J'ai jamais été arrêté à acheter un jeu. Même Guillaume, je crois qu'il a le droit d'acheter des jeux.
Même Guillaume peut acheter des jeux interdits au moins de 12 ans maintenant.
Mais ça passe.
C'est surtout que la norme PEGI en fait elle est pas représentative en fait du jeu en fait. Moi je vois effectivement il y a GTA qui est interdit au moins de 18 ans, mais on regarde un GTA 5 qui est PEGI 3. Enfin Gran Turismo 5.
Ah ouais, j'ai eu peur.
qui est PEGI 3, enfin je mets au défi n'importe quel enfant de 3 ans de d'apprivoiser Gran Turismo quoi.
Le problème effectivement on avait déjà débattu une fois, le système PEGI c'est pas vraiment représentatif.
Non, du tout, c'est du
niveau. C'est
comme
vraiment
la norme,
pas une histoire de niveau d'ailleurs, hein. C'est une histoire de contenu.
C'est comme pour le cinéma.
C'est exactement comme la télévision. Ouais,
c'est pas pour la difficulté ou la compréhension du contenu, c'est pour le non-show, faut pas être choqué, etc. C'est pour
c'est l'explicite à
donner. Ouais,
tu peux foutre un Dark Souls dans les mains d'un ado, je pense qu'il va en chier.
Alors je crois qu'il est PEGI 18 dans tous les cas.
Il est PEGI 18.
Ah bah vu le l'état abordé.
Vous avez pas un exemple de jeu hyper dur là qui
En fait, je trouve qu'il y a moins de dérives du système PEGI en général que du système de classement des films.
SimCity, c'est quand même interdit au moins de 6 ans et voilà, enfin tu mets un gamin de 5 ans devant SimCity.
Ouais, je veux dire c'est le but c'est pour pas que les enfants soient choqués.
Oui bien sûr.
Voilà, par exemple, je sais que des films, mettons genre un film d'animation que j'adore, genre Brisby et le secret de Nîmes.
Ah oui.
Tu le regardes, t'as 5 ans, tu chiales.
Oui.
Voilà, tu chiales, ça fait peur.
Le tombeau des Lucioles n'est interdit à personne.
Et
mais voilà.
Et Bambi, quoi.
Et voilà. Il y a des trucs comme ça. Il y a des films, même dans les films d'animation, juste dans la catégorie films d'animation, il y a des énormes erreurs. Je trouve que le système PEGI, vu qu'il est quand même arrivé à cause de dérives.
C'est pour ça qu'on insiste, il faut qu'il y ait les parents derrière.
Oui, de toute façon, c'est
parce que par exemple, là, quand on faisait les petites fiches pour la médiathèque, j'ai vu Mark of the Ninja, un jeu que je trouve vraiment cool. Il n'est pas hyper violent, mais c'est un PEGI 16. Franchement, je me suis demandé pourquoi c'était un PEGI 16 quoi. Je vois pas pourquoi. Enfin, un gamin de 14 ans, je crois pas qu'il sera choqué en jouant à Mark of the Ninja.
Qui est un excellent jeu d'ailleurs, hein, qu'on vous recommande chaudement.
Oui. Du coup, pour résumer, est-ce que vous pensez que la plus grande chose à combattre, on va dire, enfin à aider, ça va être la désinformation ou justement le manque d'intérêt des parents, ou est-ce que le plus ça va être de raisonner des enfants pour leur dire attention, touchez pas à ça, c'est pas encore de votre âge.
En fait, je pense que le principal challenge c'est surtout la surinformation en fait des médias qui mettent trop l'accent sur justement des jeux qui sont effectivement violents mais qui se vendent beaucoup comme un Call of Duty, comme des choses comme ça, et d'oublier de rappeler qu'en fait l'univers vidéoludique il se limite pas qu'à ça. Qu'à des jeux comme FIFA ou comme GTA quoi. Et en fait c'est plutôt ça l'enjeu. Après je pense que les parents sont réceptifs parce qu'ils ont de toute façon été des enfants et je pense aussi que les parents d'aujourd'hui ont aussi peut-être été des joueurs, et donc il y a une forme de réceptivité à ça quoi.
C'est quelque chose qui est amené à changer. C'est vrai que nos parents n'étaient pas vraiment dedans. Nous quand on sera parents, effectivement on sera beaucoup plus sensibilisés au sujet.
Ma question c'est, comment réagissent par exemple des parents qui découvrent par exemple des jeux comme Limbo par exemple? C'est quoi un accueil? C'est ils ont envie après de se mettre à jouer, à découvrir des œuvres d'art pareilles, ou ils sont assez...
Le cas Limbo, je peux en parler parce que c'est, donc on l'a mis la dernière fois en accès à la médiathèque de la Riche, et donc les parents qui sont passés derrière nous ont demandé par exemple s'ils pouvaient l'acheter, est-ce que c'était sur PC, est-ce que c'était sur tablette et tout. Donc plutôt un très bon retour, mais parce que ils imaginaient pas forcément qu'il y avait des jeux comme ça qui étaient pas très compliqués au niveau gameplay. En plus on leur dit expliquer que le jeu il durait que 3-4 heures, donc ils partent pas pour 30 heures de jeu à y jouer tous les soirs. Voilà. Et en plus, ce qu'on essayait de leur expliquer aussi, c'est de dire, vous savez, quand vous jouez à du Candy Crush et tout, mine de rien, vous jouez déjà à des jeux vidéo, en fait. C'est du casual gaming, mais vous jouez déjà à des jeux vidéo. Donc, ne voyez pas ça forcément d'un mauvais œil. Limbo, c'est des jeux. FIFA, GTA et tout, c'est aussi des jeux. Enfin, il y a différents styles de jeux. Donc, arrêtez de voir ça d'un mauvais œil.
D'accord, ok.
Bonne réponse, du coup. Votre actualité, du coup, pour les semaines, mois à venir. On avait parlé un peu avant l'émission, mais personne nous écoutait vu qu'on n'était pas en direct. Du coup, est-ce que tu peux nous en reparler maintenant?
Alors, en mois de janvier, donc là, la semaine prochaine, à partir du 13 janvier jusqu'au 25 février.
Donc cette semaine même.
Ouais, vendredi. Hein. On commence vendredi. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on fait une petite expo à la médiathèque de la Riche avec 7 ou 8 stands de jeux. Donc il y a à la fois du rétro gaming, du jeu indépendant. Si je dis pas de bêtises, il y a 3 stands de jeux rétro, 3 stands de jeux vidéo indépendants où la sélection va bouger au fil du mois et demi. Et puis on va sûrement ajouter un autre stand avec des jeux plus familiaux du type Bomberman, des choses comme ça. Et il y a aussi une petite borne d'arcade avec une sélection des gros jeux de baston que vous connaissez tous forcément en borne d'arcade. Donc ça va être pendant du 13 janvier au 25 février. Et après, pendant tout ce temps-là, le mercredi et le samedi, souvent, il y a des animations. Donc alors, par exemple, le premier jour, le samedi, attendez, je réfléchis, 14 janvier, il y a une démo Oculus Rift, donc pour ceux qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle. Donc on va faire découvrir un peu la réalité virtuelle. Donc on ne fait pas spécialement découvrir du jeu, c'est plus des démos contemplatives, des choses comme ça, parce que vu qu'on veut passer du monde, on veut faire voir à plein de gens, on ne peut pas se lancer dans un jeu d'une demi-heure. Donc en tous les cas, par exemple, il y a ça. Après, on va le 21 février, 20 janvier, excusez-moi, on fait notre présentation, donc la redécouverte du jeu vidéo. Donc on va parler à la fois de l'histoire du jeu vidéo, est-ce qu'il y a de l'addiction, pas d'addiction, est-ce qu'il y a des avantages au jeu vidéo, la norme PEGI, le marché du jeu vidéo, qu'est-ce qu'un free-to-play, un pay-to-win, etc. Entre autres, encore une fois, un peu aussi pour les parents, dire attention, votre jeu il est gratuit, soi-disant. Si votre carte bleue enregistrée, peut-être que votre gamin, en une heure, il va cramer 50 balles. Quoi. Donc il y a toute cette partie-là. Donc ça, c'est le 21 janvier. Le 4 février, on reçoit un développeur qui s'appelle Alec Moll, donc, qui fait des jeux encore aujourd'hui en 2017 sur Super Nintendo et ColecoVision, je crois.
Okay.
Donc là, c'est un petit bonus qu'on a rajouté à la programmation un peu au dernier moment. Mm-hmm. Parce qu'on a la chance que ce monsieur est de Blois, en fait, il est à côté.
D'accord.
Et donc, il suivait l'actu de la page. Un jour, il nous a contacté en disant « Ah, mais moi, je fais des jeux, si vous voulez, et tout. » Et donc, depuis, on le connaît, et donc, on lui a proposé de venir. Donc, ça, on a conscience que c'est un peu plus pointu, mais on pense que ça peut intéresser des gens. Mm-hmm. Et puis, même pour le grand public, c'est assez marrant de découvrir qu'il y a des gens en 2017 qui font encore des jeux Super Nintendo, quoi. Ouais. Enfin, je pense qu'il est un peu fou. Donc c'est Jean-Michel. Je pense que Jean-Michel, il est un peu fou en fait dans le fond. Donc voilà. Donc ça sera le 21 janvier, une petite présentation de ce qu'il fait. Donc il va faire voir ses jeux, puis aussi sa façon de travailler. Parce que moi, quand je lui avais parlé, ce que j'avais trouvé cool, c'est qu'il m'avait expliqué que aujourd'hui, il y a des outils pour faire des jeux vidéo. À l'époque, il n'y en avait pas forcément. Donc le premier boulot qu'il fait quand il veut créer un jeu vidéo, il doit limite créer l'outil, le framework. D'accord. pour dessiner ses graphismes et tout ça, ses routines de programmation. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc on a ça, on a un atelier après je sais plus la date, le 11 février. Donc là c'est toute la journée, on reçoit des enfants sur un atelier qu'on a appelé créer ton premier jeu vidéo. Mmh. Donc en fait on utilise un outil qui s'appelle Scratch, c'est fait par une université américaine, c'est fait pour apprendre aux enfants les logiques de programmation en fait, pour
D'accord.
que chaque enfant qui arrive en 6e sache un peu programmer. Donc c'est un outil purement graphique, il n'y a pas de ligne de code à taper, de choses comme ça. Et l'idée, c'est de leur faire faire un petit jeu, donc ça dure 2 heures l'atelier. Donc c'est plein de petits exercices, il y en a 8 je crois. Donc le premier exercice, on va mettre un sprite, on va l'animer, après on va prendre la notion de collision. Voilà. Donc ils vont pas faire un super, ils vont pas faire un Watch Dogs 2 ou un Limbo oui. tout de suite. Ils font Flappy Bird. Alors pourquoi Flappy Bird? Parce que c'est un jeu qu'ils connaissent les enfants. Mmh. Et en plus, il y a juste un oiseau qui doit bouger, des tuyaux qui doivent apparaître et des notions de collision. Donc ça, ils viennent et c'est par atelier de 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 enfants. Ça dure toute la journée et puis on fait cet atelier-là. Donc ça, je vous rappelle, c'est le 11 février. Et après, il y a d'autres petites choses. Je crois que le mercredi 15 et le 22 février, on fait des petites animations avec des pères lamas. On leur donne Mario en pixels. On leur dit, bah voilà, fais-moi un dessin en pères lamas. Et puis ils repartent avec leur truc en pères lamas, en porte-clés. Ça, c'est vraiment une animation pour faire plaisir plutôt aux enfants, quoi.
C'est vraiment D'accord. sensibiliser aux jeux vidéo sous toutes ses formes,
voilà,
finalement.
C'est ça, c'est ça. Okay. Donc à la fois plutôt orienté pour les parents, plutôt pour les enfants. Enfin voilà, différentes choses, quoi.
Ok, et eh ben on arrive bientôt à la fin de l'interview, hein. Ça fait déjà 20 minutes.
Si j'avais une petite question.
Une petite question, Guillaume,
du coup,
vas-y pour finir.
Comme vous faites ça, surtout des animations le mercredi et le samedi, vous avez, je sais pas, des centres aérés qui vous ont contacté ou des choses comme ça, ou des écoles même pour en semaine Enfin, qui ont contacté pour y aller, vous savez pas?
Non, on n'est pas du tout au courant de qui va venir à cet événement. En fait, on va découvrir, en fait, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'effectivement, il y aura des écoles, des choses comme ça. Enfin, c'est ce qu'on espère. Non, honnêtement, aucune
D'accord,
idée.
D'accord, ok. Vous rappelez, c'est donc vendredi que ça ouvre, c'est ça?
Ouais. Ça ouvre dès vendredi et la première animation, ouais, c'est samedi, autour de l'Oculus Rift. Ouais, c'est
ça. Ok, donc un vernissage, enfin une espèce de vernissage.
C'est ça. Ouais. Donc il y aura à boire, à manger, j'espère.
Ok, ça marche.
De toute façon, toutes les informations seront disponibles. Nous, on mettra les liens de la page.
De la page, on essaiera nous aussi de faire un récapitulatif. On essaiera de garder un ou deux prospectus.
Ceux qui nous suivent auront toutes les informations. Ouais. Voilà.
Ok, on va faire ça.
On essaiera de passer, y faire un tour de toute façon.
Je pense. Oui, on essaiera de passer peut-être à une des conférences ou peut-être à quelque chose.
Sympa,
on pourrait même intervenir si ça vous tente aussi à l'occasion et ce sera avec plaisir.
On viendra le dire que le jeu vidéo c'est dangereux.
C'est ça.
C'est ça. C'est le mal.
Est-ce que vous avez un dernier petit mot à ajouter avant qu'on termine?
Juste dire que donc outre ce truc à la riche, il y en aura d'autres qui suivent à Mont-Louis et dans d'autres villes, donc. Voilà.
Et on vous tiendra au courant du coup.
De toute façon, j'espère qu'on continuera à diffuser les informations.
Oui, je pense
dans
qu'on
les news va, et même sur la page Facebook, je pense.
En contact, il n'y a pas de souci.
On verra.
Okay. On va faire une petite pause musicale. Du coup, on va s'écouter la musique de Rayman 3 Disco Jam. Hein,
tout à fait, ouais. Et on se retrouve juste après sur C'est la faute à Matt sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On vient donc de s'écouter la musique de Rayman 3 Disco Jam et on est déjà de retour sur Radio Campus Tour dans C'est la faute à la manette. Ouais, la pause a été très courte.
Ça a été très très court.
J'ai le temps de respirer.
Effectivement, et on va vous parler du coup de la saga Rayman. Donc c'est une saga.
Tout le monde les bras en l'air.
Tout le monde les bras. Ouais, super.
Youhou.
Du coup, on a une petite musique de fond pour commencer. Ah,
excuse-moi.
Je suis totalement planté.
Il est en train de prendre un saucisson.
Trafic de saucisson, je suis désolé. Hop, c'est bon.
Ok, ouais. Voilà. Je crois que j'entends quelque chose. Alors, Rayman, qui a déjà joué à Rayman ici? Levez la main.
Je crois que tout le monde.
Tout le monde.
Est-ce que nos invités aussi ont joué à Rayman?
Oui. Oui, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Rayman? Parce que moi, pas du tout.
C'est dur à expliquer.
Est-ce que tu connais?
Lis ta feuille. Rayman, il a été créé par le célèbre Michel Ancel, hein, bien sûr.
Beyond Good and Evil 2 n'est toujours pas sorti.
Beyond Good and Evil.
Excusez-nous, on a oublié.
C'était la news de la journée.
Non plus.
Voilà. Désolé.
Alors, Rayman 1, qui l'avait fait à l'époque d'ailleurs?
Moi à l'époque, je l'avais sur PlayStation 1, moi perso.
Sur PlayStation 1, ouais.
Alors moi j'ai triché, mais je l'ai fait sur Game Boy Advance.
D'accord.
À la sortie sur l'épisode Game Boy Advance.
Ok.
Moi je l'avais fait sur PC.
Ok, un petit peu de tout.
Et moi aussi je l'avais eu en cadeau avec ma première carte son Fortissimo.
Oh. Très bien.
Et non, moi j'ai pas fait le 1, j'ai commencé sur Rayman Gamecube. Alors c'est un Rayman en 3D, je sais plus, machin ad hoc, je sais plus exactement le nom.
D'accord.
C'est le premier que j'ai fait, j'ai pas fait le vrai.
Donc ça doit être le 3, je crois.
Ouais, ça doit être le 3. Ouais.
D'accord. Alors au niveau du personnage de Rayman,
il a
pas de bras, on s'en souvient. Et pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il a pas de bras et pas de jambes?
Alors il me semble, moi, que c'est parce que c'est plus facile à animer.
Exactement, c'est la raison qu'avait donné Michel Ancel et Ubisoft à l'époque pour faire un jeu déjà magnifique. Hein. On se rappelle que Rayman 1, même maintenant, reste quand même un jeu absolument magnifique.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur iOS et Android gratuitement, il y a des publicités. et il se joue super bien. Et c'est vraiment le même, avec les mêmes graphismes et la même bande son, enfin tout est parfait.
Ouais. Voilà. Alors, au niveau des anecdotes, hein, avant de commencer Rayman 1, au Japon, la couleur du t-shirt de Rayman a été changée.
Ah oui, parce que violet, c'est genre la couleur de la mort là-bas, un truc comme
exactement,
ça.
Exactement, le violet, ouais, c'est la couleur de la mort, donc il est passé de violet à bleu.
Promis, j'ai même pas lu mon texte.
Vous avez même pas lu. Il est passé donc de violet à bleu sur les jaquettes européennes, voilà, c'était un petit peu pour.
Japonais, tu veux dire.
Oui, c'est ça, exactement. Merci de me corriger, je suis un peu fatigué. Qui me résume l'histoire de Rayman 1 ?
Il y a un méchant, il arrive, ouais. Rayman doit lui mettre des coups de poing.
Et il y a la fée qui est triste.
Ouais. Et elle lui jette de la poussière, et ça fait les poings de Rayman plus forts.
D'accord.
Et des fois, ça lui permet aussi de s'agripper aussi.
S'agripper, et quand on est hyper fort, on peut même courir.
Wow. Et faire l'hélicoptère avec sa tête.
Et l'hélicoptère avec,
oui,
avec
sa tête.
Tête,
hein, attention, hein, avec sa tête.
On précise. Voilà.
Alors, on résume que Rayman, hein, c'est un jeu de plateforme en 2D, vu de côté, effectivement, comme un Mario.
Ouais. C'est comme Mario.
Oui, effectivement, c'était un jeu plutôt difficile, hein,
c'était
pour l'époque.
Très, très difficile, ouais.
C'était horrible.
Et à finir à 100%, c'était
tous les looms, ouais.
Je trouve que le jeu, en fait, est intemporel sur ses visuels, plutôt vraiment bien vieilli sur ses musiques, mais alors la maniabilité, c'est horrible, c'est insoutenable.
C'est un peu rigide, voilà.
C'est un peu rigide.
Bah, avec les accès aux plateformes, même, bah, surtout quand t'as pas le truc pour t'agripper au début. Enfin,
ah, mais quand t'as pas de bras, vas-y, va t'agripper à une plateforme.
C'est ça.
Puis, ouais. Puis on voit aussi que la structure de Rayman 1 a été reprise plus tard dans Rayman Origins et Legend. D'ailleurs, j'avais commencé moi par. Enfin, j'avais fait Rayman Origins avant de retourner sur Rayman 1. Effectivement, c'est exactement le même. C'est quasiment les mêmes visuels, je sais pas si
ouais.
Tu avais fait le rapprochement.
C'est le même univers.
Mais
même
avec
univers,
un moteur bien supérieur, enfin on en parlera après je pense, on va essayer de faire chronologique quand même.
Donc ce premier Rayman, est-ce qu'il y avait un moment dans le jeu qui vous a marqué, qui vous a...
Ah déjà moi c'est l'arrivée du méchant.
Ouais.
Je trouvais qu'il était trop dark, tu sais il arrivait
c'est
avec...
C'est pas Monsieur Dark ou un truc comme ça d'ailleurs. Ah bah oui c'est voilà.
Sorcier d'art, Monsieur Dark.
Et je trouvais que c'était assez badant, tu sais, tu le voyais arriver là dans une cinématique en 2D et tout, avec une musique un peu sombre ou un rire, je sais plus ce que c'était. Et franchement, ça imposait, tu vois. Enfin, moi j'étais assez petit quand je l'ai fait, et ça me faisait assez peur. Enfin, je crois qu'il est sorti. J'étais même pas né, tu vois, donc. C'est dire. Ah,
c'est pour ça que ça faisait peur.
C'était un des premiers jeux du studio Ubisoft, hein, ou Ludimedia.
L'Union Bretonne Indépendante Software.
Qui s'appelait Ludimedia à l'époque, hein.
Ah, d'accord.
Pour l'anecdote. Voilà, c'était juste pour l'info.
Moi, c'est les musiques des niveaux.
Ouais.
Et le niveau avec les crayons et le niveau de la musique en lui-même qui sont fascinants.
Moi, c'est le niveau de la musique qui m'a choqué,
niveau,
justement.
Voilà.
C'est,
musique,
en fait,
les instruments, là.
Je trouve que dans Rayman, je crois que je suis en train de citer Benzaï, mais dans Rayman, le niveau de la musique, c'est le moment où tu vas avoir ton premier game over. En fait, le début de Rayman est plutôt simple. Ouais. Ensuite, tu arrives au niveau de la musique et là, le jeu te
ah oui, je m'en souviens.
Te prend dans une ruelle sombre. et ce moment, il y a un pic de difficulté énormissime. Et voilà, on se fait littéralement tuer en boucle sur ce niveau. Et moi, voilà, c'est vraiment cette musique du niveau de la musique qui me provoque des flashbacks pendant la nuit.
Alors Rayman, on rappelle qu'il est sorti sur PlayStation, Android, iOS, Game Boy, sur à peu près
PC,
tout ce qu'il est
facilement trouvable partout, tout le monde peut y jouer maintenant.
Grippin presque.
Et je conseille à vraiment tout le monde, bah maintenant qu'il est sur, je ne savais pas qu'il était sur téléphone portable.
Et gratuit.
Gratuit, allez-y, testez-le, amusez-vous.
Éclatez-vous.
Arrachez, jetez votre téléphone contre les murs.
Et mettez la musique surtout.
Et mettez la musique. Mais c'est un jeu et vous vous rendez compte que c'est un gros jeu vidéo encore.
Mettez la musique, mais moins fort que quand vous jouerez à Origins.
C'est ça. Et donc, il est sorti le 1er septembre 95. Hein,
95.
Exact. Ça nous rajeunit
pas. Fait que
ça ne rajeunit pas
Guillaume.
0-1.
0-1.
Du coup, on passe direct à Rayman 2 qui est sorti en 1999. Ouais. Et qui est sorti, alors lui, sur tous les supports imaginables aussi, hein, N64, Dreamcast, PS2, Game Boy Color, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS, PC, la totale. Il est sorti sur absolument toutes les plateformes.
Ouais. Avec une énorme campagne publicitaire à l'époque.
Alors, rappelle-moi, je m'en souviens pas.
Bah, en fait, moi, je me souviens très bien, c'était dans les Pixo Magazine, dans les Mickey, dans tout ce qui était Mickey Parade, Pixo Magazine, Pif Gadget, Spirou, tout ce qui était existant, McDonald's, etc. Il y avait du Rayman 2. Voilà.
D'accord.
Avec le visuel de lui en 3D, etc. Et
surtout,
parce
ouais,
que,
il est en 3D.
Voilà, il est en 3D, donc c'était ça le gros truc qu'il mettait en avant. Mais on en a mangé, j'en ai mangé du Rayman 2, moi. Voilà.
D'accord. Alors, pour l'anecdote, il devait être en 2D hein, au départ. Ils avaient déjà planché sur une suite directement, un Rayman 1.5, hein, qu'on appellerait ça aujourd'hui. Et ils se sont dit, bah voilà, on a la PlayStation, ça a l'air d'être assez puissant. Et apparemment, Ubisoft, à l'époque, voulait absolument son jeu en 3D. Dont ils puissent être fiers.
Ouais.
Et du coup, ils ont tablé directement sur ce Rayman qui est un peu plus sombre, non, que le premier.
Ouais, il me semble. Bah déjà, tu commences. Rayman, il est en cage, je crois, ou alors c'est Globox qui est en cage.
Mais non, c'est les deux.
C'est assez dark. Hein. Bah déjà, le 1 était plutôt dark, hein, le début, quand je parle de Monsieur Dark là. Et ouais, ça a commencé déjà grave. Et du coup, le grand méchant, c'est un pirate, il me semble.
Ouais, ouais, c'est
une espèce de méca pirate.
Tranchante.
Il me rappelle le personnage du film Lego.
Alors, c'est des robots Monsieur pirates pirate. Venus de l'espace.
Voilà, des robots
exactement.
Pirates.
Donc ça se passe directement après Rayman 1, il a noué des relations avec les habitants de la Croisée des Rêves, hein, c'est ça, je crois que c'était ça le scénario.
En fait, le monde de Rayman se passe, enfin les jeux Rayman se passent quasi tout le temps dans le même monde, mais on n'en sait rien en fait à chaque fois, on sait que ça se passe dans les rêves de quelqu'un, qui s'appelle le Grand Rêveur ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, c'est un univers dont on se fiche un peu en fait. C'est pas là n'est pas l'intérêt. Mais ce Rayman 2 était vraiment vraiment cool. C'est vrai qu'il était un tout petit peu plus adulte que les autres.
En me disant ça, j'ai très peur qu'un jour Ubisoft fasse un crossover avec Assassin's Creed.
Assassin's Creed.
En disant qu'on est en train de faire des rêves de Rayman. C'est son ancêtre. Les Rayman, c'est un ancêtre de Rayman, et on est en train de faire.
J'aurais des anecdotes. Du coup, tu crois pas si bien dire. J'aurais des anecdotes à te dire avec les lapins crétins tout à l'heure. On y reviendra.
Ah ça, c'est les tenues assassins
sur le fameux Rayman 4. J'ai des informations assez croustillantes et assez effectivement intéressantes. On notera qu'un remake de Rayman 2 est sorti sur PS2. Alors, c'est pas vraiment un remake, mais c'est plutôt une version plus de Rayman 2 qui s'appelle Rayman Révolution. Je crois peut-être que quelqu'un l'a connu autour de
c'était
la table.
Rayman 2, ça.
C'était Rayman 2, effectivement, qui a été refait avec moins de temps de chargement, plus de zones et des graphismes améliorés. Donc, si vous voulez la version ultime en tout cas de Rayman 2, c'est sur PS2 qu'il faudra.
Les 3DS.
Ouais, mais non, je crois que c'était pas.
Bah, il me semble que si dans la DS ils l'ont ressorti avec. Parce que la PS2 c'est bien avant, mais il me semble que moi j'avais la version DS et il me semble qu'ils ont tout rajouté. Ouais.
Moi je l'ai refait sur DS effectivement sur Rayman 2 et c'est vraiment un bon jeu. Il a une très très bonne maniabilité. C'est un peu, en fait, il y a un petit air de Mario 64 linéaire dedans que j'aime beaucoup. Avec plein de surprises, des choses différentes. Bon, il y a des moments qui traînent beaucoup. Ouais. C'est vraiment vraiment un bon jeu. Vous pouvez y aller tranquille. Et puis la direction artistique, c'est une tuerie, donc voilà, faut pas le louper quoi.
Ok. Alors on passe à Rayman 3. Rayman 3 qui est sorti sur les consoles du coup d'après, hein, PS2, oui. Xbox, GameCube, qui joue vachement plus sur le côté humoristique.
Tout à fait.
Par rapport aux autres, avec plein de références, plein d'easter eggs, plein de choses cachées. On a des références à Zelda, on a des références à un petit peu tous les univers du jeu vidéo. Est-ce qu'il vous a plus marqué, un
moi,
peu plus déçu
moins.
Peut-être
moi,
que les autres.
Alors moi je l'ai pas connu perso.
Moi,
pas
je du tout. C'est dire. Ça a été beaucoup moins marketing et puis. Les gens l'attendaient moins, je sais plus quel jeu. Il y avait un autre jeu de plateforme qui était sorti à peu près à la même période qui avait tout mangé en fait.
Je sais plus
ce que c'était.
C'était pas Prince of Persia tout simplement.
Je crois, je sais plus ce qui sortait en même temps et en fait ils ont sacrifié
ou
un peu.
Peut-être un Sunshine ou un truc comme ça.
Ouais,
il est sorti en 2003.
Ça.
Il était en deux, Mario ça. Sunshine c'était 2002. Ouais, non, je
c'est
sais pas.
Oudlum Avok du coup.
Il a eu un peu moins de succès de publicité en fait.
Ouais.
Moi, ce Rayman, je l'aime d'amour.
Moi aussi.
Je me rappelle de beaucoup de choses. Par exemple, dans son introduction, on nous apprend que le méchant est méchant parce qu'il s'appelle André et qu'il n'aime pas son nom.
C'est vrai.
Et que si on le laisse faire, il nous forcera à jouer de l'harmonica.
C'est vrai.
Et c'était ça la motivation du méchant, c'est vide, faut pas que je joue de l'harmonica, donc il va falloir que je stoppe André. Et il y avait plein de petits détails comme ça que j'aimais beaucoup. L'humour est vraiment, vraiment bien dans celui-là. Et même si au début il est humoristique, après il devient un tout petit peu plus sérieux. Et puis il y avait justement des moments de musicaux qui étaient vraiment, vraiment cool, quoi. Où c'était des séquences un petit peu, on va dire, Jet Set Radio Tony Hawk-esque, un petit peu de slide, qui était assez bien. Même si la boucle de gameplay était pas top.
Je trouvais stylé, par contre, ces griffes là.
Oui.
Mais moi je les voyais en affiche à chaque fois, j'ai jamais pu jouer, mais c'est vrai, je trouvais ça assez classe.
Ouais,
ça me donnait un côté badass.
Il y avait aussi, on pouvait se transformer, on pouvait devenir tout petit, tout grand. C'était en fait le pitch, c'était qu'il y avait des sortes de canettes qu'on pouvait boire. Et qui donnait des pouvoirs.
Vous pouvez le faire assez facilement. Il est ressorti sur PS3, Xbox 360 en HD, donc vous pouvez facilement y avoir accès.
Sur PC aussi, je crois.
Sur PC aussi.
Sur l'Uplay.
Du coup, j'aurais bien aimé vous parler de Rayman 4, mais du coup, on va vous parler de Rayman contre les lapins crétins.
Alors, je tiens à défendre un petit peu.
Vas-y.
Il était sympa. C'est pas un Rayman, mais il était sympa.
Il était assez dur.
Je l'ai eu à la sortie de la Wii avec ma Wii. Donc, c'était à l'époque où la Wii était en rupture de stock. Et je m'étais bien amusé dessus. Il y avait des niveaux rigolos, mais c'est vrai que ce n'était pas un Rayman. Parce qu'il y avait quand même un petit scénario, c'est-à-dire que tu étais emprisonné chez les lapins.
Ouais.
Et qu'il fallait que tu remportes des trophées en truc de chiottes, là, je sais pas comment ça s'appelle.
Les ventouses.
Et comme ça, tu pouvais sortir de ta prison. C'était
le
speech.
C'était ça, ouais.
Parce que je l'ai fini, hein. Et j'ai fait toutes les épreuves de danse, j'ai fait les lancers de vache, j'ai fait les records, hein. Ça, je peux te le dire,
mais
je peux t'en parler des heures.
Vous entendrez ça nulle part ailleurs.
C'est voilà. Ça.
Et non, il était sympa, mais ce n'est pas un Rayman, je suis d'accord. Mais je tiens à le défendre quand même. C'est après, au moment où ça a commencé à être les lapins crétins avec leur machine à laver dans le temps, là, c'est parti n'importe comment.
Alors, prendre de dégoût dans ta voix.
Pour les anecdotes, Rayman 4, en tout cas, un début de bout de scénario a été repris dans le jeu Game Boy Advance, Rayman contre les lapins crétins, qui était un vrai jeu de plateforme pour le coup, et qui fait directement suite voilà, directement suite à l'histoire et qui était un petit peu plus intéressant. Au niveau du scénario, donc j'en parlais, le scénario, le seul truc qui a fuité, Rayman devait participer à un camp d'entraînement pour les héros de jeux vidéo, où il aurait interagi avec d'autres personnages d'Ubisoft, dont le personnage de Prince of Persia ou Jet de Beyond Good and Evil, par exemple.
D'accord.
Et voilà, il y aurait eu Dark Rayman qui apparaîtrait sous forme de bug. En tout cas, c'est les seules infos moi, que j'ai trouvées en fouillant un peu sur les internets. C'est ça.
D'accord, le rêve de faire l'univers Ubisoft. Quoi.
C'est ça, c'est Ubisoft c'est déjà,
et c'est, le pire, c'est que c'est encore le cas. Hein,
c'est, ouais, c'est ça. Ça se voit, donc ça traîne depuis très longtemps dans les dossiers, dans les cartons. Quoi.
C'est un rêve, en fait, peut-être de Michel.
Alors, voilà, on pensait que Rayman était mort à partir de ce moment-là. Bah, mais
non, on a eu les jeux éducatifs avant. Je veux juste en parler vite fait.
On va en parler vite fait. Ouais, il y a eu plein, plein de jeux éducatifs Rayman.
J'ai un ami qui est fan de PC qui m'en a parlé. Donc, alors, en fait, c'est une. Plus fort qu'Adibou, plus fort qu'Adi.
Ah, j'allais le dire.
C'était Rayman, donc il a fait énormément de jeux pour enfants de tout âge. Donc il y a eu pour des jeux de dictée, des jeux de mathématiques, des jeux d'histoire, etc.
Alors exactement, voilà. Il y a eu les dictées de Rayman, les langues avec Rayman, l'allemand avec Rayman, Rayman et accompagnement scolaire pour le CP, la maternelle, Rayman, les juniors révisés, calculés, lecture, c'était incroyable. Et Rayman, premier clic, crèche et maternelle.
Et c'était des très bons jeux éducatifs.
Il paraît que c'était des très bons jeux éducatifs.
Voilà, j'en ai connu moi dans les.
Team Adibou Forever.
Alors, il nous les faut, nous, obligés là.
Ah, il faut, bah,
obligés, ils sont super cool. Voilà.
Du coup,
trouvé en brocante.
Mais ça fait longtemps, voilà.
C'est compliqué à trouver, je crois, maintenant, d'ailleurs. Guillaume, tu vas nous parler de la résurrection de Rayman.
Et là, un jour, le studio de Ubisoft Montpellier, où travaille Michel Ancel, enfin, je crois, se dit et si on faisait un reboot de Rayman. Et ils créèrent un superbe moteur graphique que tout le monde connaît maintenant, qui est le Ubi Framework, aka le meilleur moteur graphique pour la 2D au monde, je pense.
Oui, parce qu'il permet, en fait, de ce qu'en disent les développeurs, c'est
une liberté totale pour les développeurs de créer, en fait, les univers qu'ils veulent. Et du coup, ils nous sortent sur Xbox 360 et sur PS3 à l'époque le fameux Rayman Origins, donc qui revient aux origines de Rayman, avec pas vraiment d'histoire mis au début. Enfin si, en fait, on voit juste Rayman qui fait une sieste et qui se fait réveiller par un espèce de monstre et qui doit du coup combattre. Et le jeu est magnifique. Enfin, je trouve
qu'il
ne vieillit pas.
C'est incroyable.
Non. C'est une tuerie.
Les animations sont dantesques.
Je pense que c'est le plus haut qu'on peut faire avec de la 2D. Enfin, niveau qualité.
Oui, on n'est pas loin. On est pas loin.
Dire, je suis avec un ami, mon collègue Dylan, qui est très très réfractaire sur les jeux 2D. Et quand il a commencé à jouer, il dit ouais, c'est joli tout ça. Puis il a vu de l'eau. Alors lui, 2D et de l'eau, c'est. Voilà, c'est situation de crise. C'est, je pose la manette. Et là, il voit Rayman qui plonge, super fluide, qui est ultra maniable. Et là, il fait. Oh, c'est et là, limite, il a chanté. Voilà, donc voilà, je crois que c'est magique. Quoi. Rien que cette phase où tu fais la première fois sous l'eau et t'as la première fois que tu joues un jeu 2D où les phases aquatiques, c'est. T'as presque envie de pas sortir de l'eau. C'est là qu'ils ont réussi, tu te rends compte qu'ils ont réussi leur challenge. Quoi.
Alors, sur Rayman là, moi, ce que j'en souviens, c'est surtout une ou deux soirées de multijoueurs intense à 4.
Ah oui.
Et voilà, ce sur Rayman peut être joué à 4. Et c'est le multi parfait, c'est-à-dire qu'on peut s'embêter les uns les autres, on peut se taper, etc. Mais. En fait, on est toujours, ça va jamais vraiment impacter toute l'équipe. Et du coup, il y a vraiment un côté je t'aime moi non plus dans le multijoueur que j'adore. Et voilà, quelques soirées mémorables à 4 sur ce Rayman Origins qui est voilà, vraiment fantastique.
Et en plus, tous les personnages que tu peux jouer sont géniaux. Enfin,
oui.
C'est souvent
ils
la même chose, c'est Rayman avec des costumes différents. Mais
Rayman et Globox.
Globox.
Et les petits êtres.
Les petits êtres. Même genre, je sais pas, des Rayman version Far Cry 3.
Oui, voilà.
Il y a des trucs vraiment stylés quoi. Enfin, Rayman version Sam Fisher, je crois. Il y a même.
Peut-être, ouais.
Et il y a eu une suite du coup qui était prévue exclusivement sur Wii U à l'époque, hein, je sais pas si tout le monde s'en souvient
de la Wii U
effectivement qui a existé il y a longtemps donc qui était prévue exclusivement pour Wii U et Ubisoft voyant que les jeux ne se vendaient pas du tout sur cette console a décidé
de vendre des jeux
et de le sortir sur toutes les plateformes existantes donc PS Vita, PS4, Xbox One,
PC.
Et c'était un très bon jeu, notamment pour les niveaux musicaux. Hein,
qui ont marqué
dantesque,
énormément
exceptionnel.
De gens.
C'est génialissime.
Moi, celui-là, je ne l'ai pas fait. Je crois d'ailleurs que c'est un des seuls jeux Rayman auxquels j'ai jamais joué.
D'ailleurs, si tu peux lancer l'autre truc de Rayman, je crois qu'on entend un petit bout du niveau musical qui est absolument génial.
Alors, écoute, il n'y a rien.
Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre. Voilà.
Une émission préparée plusieurs mois à l'avance.
une émission de qualité.
Non, je n'ai rien, désolé.
D'accord.
Je peux aller chercher sur les internets en même temps, mais continue à meubler, s'il te plaît.
Du coup, qui l'a fait ce
jeu? Moi, je l'ai fait, moi.
Messieurs, vous l'avez fait?
Bah ouais. Oui, parce que moi j'ai une Wii U, quoi.
T'as une Wii U?
C'est toi!
Parce que j'ai des enfants.
J'ai une Wii U aussi, je collectionne, j'essaye d'avoir tous les
deux
bons
utilisateurs
jeux
de Wii U dans la même pièce.
Incroyable! La prophétie est donc vraie!
du coup, il y a eu des dérivés aussi, des jeux Rayman. Ouais, c'est ça.
Ouais. On entend en fond, du coup, une version d'un niveau, du coup c'est Castle Rock là, c'est le premier, il me
c'est
semble.
Ça, voilà. C'est quand même un des plus sympas.
C'est quand même... En fait, ce qui est bien dans, dans ces niveaux, c'est que tout se joue en fait en écoutant la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est juste vraiment jouer en rythme.
Tu peux le faire en rythme en fermant les yeux, hein. D'ailleurs ça marche, j'avais essayé.
C'est vraiment impressionnant, c'est super bien calibré, voilà.
Et bah du coup, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des Rayman.
On pouvait peut-être faire limite, peut-être en parlant du Ubi Framework, ils ont fait d'autres jeux aussi avec Ubi Framework.
Soldat Inconnu,
qui parle de la première guerre... Première ou seconde ?
Première
guerre mondiale.
C'est suffisamment rare en fait.
Qui est super, qui est super poétique. Il y a Child of Light aussi qui est fait.
Qui est pas si terrible hein, à jouer que ça, mais qui
si,
est...
système de combat de Grandiard. Oh monsieur.
Qu'est-ce que c'était ? Non, c'était un petit peu chiant au niveau...
Alors le problème, c'est que la boucle de gameplay était très limitée. Mais c'est un jeu qui rime, donc voilà, c'est un jeu entièrement en vert, donc ça c'est plutôt une bonne idée.
Effectivement.
Et si on peut dire que Rayman, il y a la grosse rumeur comme quoi il serait jouable dans le prochain Smash Bros.
Eh ben ce serait pas mal.
Ouais. Bah, ce serait pas trop
parce
tôt.
Qu'il a totalement sa place, hein, si on réfléchit. Rayman dans Smash Bros, voilà, viens.
Ok, et eh ben du coup je pense qu'on va en finir là avec Rayman, et on va passer directement au quiz. Hein. C'est déjà la fin de l'émission,
quiz.
Ça va super
quiz.
Vite. Et ouais.
Quiz.
Allez,
quiz,
je lance quiz. Le jingle petit... quiz, alors c'est parti.
Un petit jingle de quiz. Et nos invités vont jouer avec nous.
C'est passé quoi là ?
Mais bon, il y a les micros, hein, vous pouvez y aller.
Donc nos invités hein, vont jouer avec
quiz.
Nous, hein, vous êtes prévus sur,
oui,
la,
vous
avez sur la grille des scores.
Oh punaise.
Ah bon ? Elle est où la grille des scores ?
Je te l'ai mis en fin de...
Voilà,
pendant si Ferdi n'a pas sa grille des scores, non, ça va mal se mettre.
Pendant le jingle pass, on peut réexpliquer que pour annoncer sa réponse, il faut dire son prénom,
voilà.
Pour qu'on l'interroge. Voilà, je préfère le préciser.
Comme à l'école.
Voilà.
Comme on peut pas lever la main à la radio.
Et du coup, ce soir, donc on aura un quiz sur Rayman. Hein, c'est pour ça qu'on vous avait dit de bien réviser votre sujet.
Un vrai quiz.
Effectivement. On m'entend bien là ? J'ai pas trop de... Oui,
oui, on t'entend.
Oui,
c'est
on
bon,
t'entend. Excuse-moi.
C'est pas grave. Du coup, comme on est avec nos amis de Born in the 80s, on va gagner ce superbe jeu ce soir qui s'appelle The Ninja sur Master System.
Oh. Avec une jaquette sous paillettes.
Est-ce que tu peux nous lire la description derrière, s'il te plaît ?
Alors, The Ninja, sauvez la princesse, soyez son héros. Elle vous attend dans le château Okami où l'abominable Gyukoro la retient prisonnière. Courez à son secours, mais la partie sera rude. Les troupes de Gyukoro vous attendent armées jusqu'aux dents.
Waouh!
Avec une superbe jaquette d'un ninja fait sous paint avec un shuriken géant. Voilà.
Ça, c'est un beau cadeau. Beau.
Jaune banane.
C'est vraiment un super beau cadeau. J'espère que ça va vous plaire. Donc.
Je lance le fond du quiz.
C'est parti.
C'est bon, vous entendez ?
Oui, c'est bon.
C'est bon. Alors, question numéro 1. Alors, je vous rappelle, hein, pour répondre, dites votre prénom et c'est moi qui vous donne la parole. C'est bon, tout le monde est prêt ?
Yes.
Oui, monsieur.
Ouais, c'est bon. Alors, première question. Combien y a-t-il de niveaux dans l'histoire principale de Rayman Legends ?
Oh, foi.
Combien de niveaux ? Allez, on va tous donner une approximation.
Des mondes ou des niveaux ?
Des niveaux, je parle de niveaux.
Des niveaux.
Guillaume. 132.
D'accord, tout le monde va donner une réponse, on va voir qui est le plus près.
Teddy.
Camoulox. Aucune idée ?
Non, aucune idée.
Ok, Mickaël, est-ce que tu as une idée ?
Vraiment aucune idée.
Ok.
Moi je vais dire 120.
Très bien.
Enfoiré.
Je vais dire 12, pas possible.
12. Et c'est Tom qui gagne 120 exactement. Oh, il y en avait exactement 120.
Le juste prix.
Deux points pour toi, Tom. Question numéro 2 pour 2 points. Lors de sa première commercialisation, Rayman est classé sous quelle lettre par le système de classification européen et américain pour le coup ?
Lettre ?
Ouais.
Bah, E. Tom, E.
Exactement, Tom, c'est encore Tom qui va gagner cette fois.
Ah, c'était une question piège.
Eux, soit everyone ou tout public.
Oui, c'est ça.
J'avais
même pas compris la question.
C'est du troll.
Alors là, ce sera au plus rapide. Y a-t-il eu une série, un film, Rayman ou les deux ?
Guillaume. Il y a eu qu'une série.
C'est faux.
Il y a eu un film ?
Teddy, il y a eu les deux.
Oui, Teddy, ça te fait deux points.
Il y a eu un film ?
Il y a eu un film Rayman absolument horrible en animation. Horrible.
Ah, ça devait être trop bien.
Une série qui s'est arrêtée au bout de quelques épisodes. 4 épisodes, je crois.
Teddy l'a bluffé, il savait pas.
Grave.
C'était une
horreur. Tu peux le dire si tu les as vus, hein, Teddy.
J'avoue, je les ai pas vus.
On t'en voudra pas, on a fait pire ici. Hein. Question numéro 4 pour 3 points. Dans quel jeu, Ombre dit à Rayman, c'est un honneur de servir un héros tel que toi ?
Waouh.
Wow.
C'est pas facile, hein, c'est pas facile.
Ferdi. Rayman 3 ?
Non.
C'est peut-être pas un jeu Rayman.
Ah, c'est peut-être pas un jeu Rayman.
J'ai pas dit ça, hein.
Guillaume, Rayman 2.
Et oui, c'est ça. C'était effectivement, Rayman. C'était
au
un
pif,
petit peu le pifomètre. 3 points pour Guillaume.
Merci.
Question numéro 5. Pour 3 points, quel est le nom de l'artefact qui maintient l'équilibre cosmique du monde de Rayman ?
Ah oui, oui, oui. Moi, je m'en souviens. Il faut les masques, tu sais, il faut mettre les masques dedans dans le 2.
Ah oui, je vois. C'est mais ce truc-là. Non, j'ai pas le nom.
Le.
Ouais. Alors, une idée
de la première lettre.
Ouais. Alors, c'est le grand quelque chose. Oh là là,
ouais. Le grand truc.
Le grand truc. Personne.
Le grand tout.
Non, alors c'était le grand Protoon.
Ah bah non.
J'avais oublié.
Question numéro 6 pour 3 points. Combien y a-t-il de jeux éducatifs Rayman?
Yem. Yem. 9.
9.
Ouais.
Ok.
12.
12.
Non mais compte pas. Arrête.
Trop tard.
Compte pas
vos estimations, moi je compte.
C'est pas juste, on a pas les fiches nous.
Non, non, non. Tiens, mais il me faut une réponse.
Je vais dire 20.
20.
12.
12.
Ah non,
c'est pas grave, tu peux.
Ça donne les points, ça
9.
9. Et c'était 9, effectivement.
Oh,
Michael et Guillaume marquent du coup.
Non, moi j'ai mis j'ai dit 12.
Ah non, c'est. Qui est-ce qui a dit 9?
Bah que moi, que moi.
Que lui.
Ok,
que
on peut pas m'enlever ma victoire.
Et bah parfait, ouais, 3 tout points. À fait. Super. Comment s'appellent les missiles à 4 pattes créés par les pirates? Ils ont un nom, ces missiles.
Ah ouais ça.
Et oui, ils ont un nom.
Complètement.
Les, papa... les roquettes papates, enfin je sais pas.
Les roquettes papates, ok. Est-ce que vous avez des idées, inventer des noms peut-être?
Roquette Kékette, en hommage à un film.
D'accord.
Non, moi j'ai pas. Vraiment, j'ai pas.
Alors, je serais d'avis de dire que Guillaume.
C'est
a
pas les missiles quelque chose?
Alors, c'est Guillaume, on va dire que ouais. C'est les obus à pattes.
Les obus à pattes,
on est pas loin.
Ah,
on
presque.
Est pas loin.
T'as gagné combien de points, excuse-moi?
4 points.
14 points.
Alors, comment s'appellent les personnes qui portent le titre de roi des petits êtres? Un nom particulier dans l'univers de Rayman.
Le roi des petits êtres, c'est donc c'est Rayman Legends, c'est Origins, ça?
Oui, c'est ça.
Quoi?
Ils sont jouables.
Oui, ils sont... bah oui, il est jouable.
Mais comment ils s'appellent déjà?
Bah, c'est le chef des petits êtres, non. C'est celui qui a la couronne, c'est ça?
Oui,
c'est
mais
comment les petits êtres? J'ai plus leur nom. Tu l'as dit tout à l'heure en plus. Ah bon? Bah non, oui. C'est les petits êtres, justement.
C'est les petits êtres, oui.
Oui, mais ils ont un nom.
Ah non?
Bah oui, ils s'appellent
les
petits
êtres.
C'est les petits êtres, hein, les débats.
Non, tout à l'heure, je dis les petits êtres.
C'est-à-dire qu'entre eux, ils ont des noms, mais on peut pas le dire à la radio.
Bon, alors personne ne l'a, du coup, ça s'appelait les grands mini ou les grands minimus.
Ah, on n'osait pas le dire.
Ah oui, bah oui.
Alors,
tu vois ce que
attention, question importante, sur quelle console est sorti l'épisode 2 de Rayman en 1999? Sur combien de consoles?
Guillaume.
Combien de consoles? Ouais. Différentes.
Alors,
différentes.
Sur PC, N64...
Dis-moi juste un nombre, hein, je pense. Que
j'ai 3.
3.
5.
5.
3.
3 aussi.
3.
4.
4. Et c'est les 3 qui sont le plus proches, il est sorti sur N64 et PC en premier.
Donc après, seulement 2 en fait.
Seulement 2.
Ok. Et après sur PlayStation. Ouais,
et après sur PlayStation, okay. Effectivement. Question numéro 10.
Attends, c'était pour combien de points?
4 points tout à l'heure. Question numéro 10, du coup, pour 5 points. Quel était le nom du studio Ubisoft? J'espère que vous m'avez bien écouté à l'époque.
Lumidia.
Lumidia, non, pas tout à fait.
Ah putain.
C'était presque ça.
Lumidia.
Unimedia.
Pas loin.
Il y avait Media.
Umidia.
Umidia, c'est les médias humides. C'est breton.
Lunidi.
Prêt, hein?
Unidi.
Ludimedia.
Oui, Ludimedia, 5 points, effectivement, pour toi, Tom.
Pardon.
Dernière question pour 5 points. À quelle espèce appartient Globitch?
Globitch?
Bah, c'est un Globox, non?
Effectivement, 5 points pour toi, Guillaume. Félicitations.
Oh, merci.
Question numéro 12, dernière, pour 5 points également.
Je crois que c'est la
dernière. Combien de pages et de photos comprend le guide officiel de Rayman 2 The Great Escape?
250.
Alors pour le nombre de pages et nombre de photos.
250 pages, 50 photos.
Ok.
200 pages, 100 photos.
Ok.
2 pages de photos.
872 pages et 47 photos et demie.
D'accord.
Aucune, c'est un PDF.
Non, je déconne.
Alors, 192 pages et plus de 1000 photos.
1000
wow.
1000.
Alors,
mais ils ont fait comment?
Je sais pas qui a gagné, je crois que c'est Ferdi qui
ouais,
était bah plus
ouais,
proche.
Ouais, j'avais dit plus trop de photos, moi. On va mettre mes 5 points.
Allez, hein. On va mettre ce
ça,
5
points. De toute façon, ça change pas grand-chose, c'est Guillaume qui nous écrase.
C'est Guillaume qui vous écrase.
Ah oui, totalement. 4 bonnes réponses, oui, dont 2 à 4 et 1 à 5.
Ouais, non, c'est Guillaume.
C'est donc Guillaume qui remporte ce fantastique jeu. Tu peux choisir de le garder ou de le donner à nos amis de Born in the 80s.
Oh, je vais leur donner.
Tu leur donnes
pour la prochaine expo.
Très bien. C'est cadeau. C'est bah,
merci beaucoup hein.
Félicitations je pense que vous êtes content là pour le
jeu ninja quoi.
Alors, il est complet.
Et en plus, je
regarde. Et colorié au plus.
Il est colorié par un enfant.
Réflexe de collectionneur, tu ouvres tout de suite la boîte, savoir s'il y a la doc.
Et il y a des taches de chocolat derrière, je crois même. C'est trop bien.
On a tous le même.
Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive au bout. Hein. On est déjà à la fin de l'heure, ça va super vite.
C'est incroyable.
Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, vous savez? On sait
bah,
pas.
Si ça bah,
on fait une émission de radio.
On a qu'à faire Sonic.
Non, Tom, si tu proposes, tu sais qu'on fait rien.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, je vais pas dire.
Tom ne propose pas, effectivement.
Je vais pas proposer, sinon je pourrais pas être là.
On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. On vous remercie. Merci d'être venu, messieurs.
Merci à vous.
C'était super
merci
cool de vous avoir.
C'est bien amusé,
ouais. Et on vous suivra et on essaiera de venir aussi à vos expos.
On n'oublie pas donc Médiathèque de Saint-Avertin.
Saint-Avertin.
Non.
La Riche.
La Riche.
Malheureux. du 13 janvier au 25 février.
Donc médiathèque de la Riche, ne les ratez pas.
Voilà, allez-y, ils sont super. Allez, à la prochaine.
Allez, on vous laisse avec Just Story, à la prochaine. Ciao.